Gloire au Seigneur. Amen. On va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Donc, jeudi dernier, j'ai parlé sur Jonas. Vous vous rappelez ? Qui se rappelle ? Il n'y avait personne dans l'église. Il n'y avait personne dans l'église. Mais moi, je me rappelle. Vous savez pourquoi ? Juste, je vais en parler, mais... Je ne vais pas m'étendre, parce que juste après le chapitre 1er, il y a le chapitre 2 et Jonas va être confiné. Il va être confiné, pas 3 semaines, mais 3 jours et 3 nuits, dans pas un appartement ou une maison, mais dans le ventre d'un grand poisson. Et là, il va survivre au confinement. Il va survivre, et je pense que c'est le pire de l'histoire que Jésus reprendra d'ailleurs, ce confinement terrible concernant la vie de Jonas. Mais voilà, il va s'en remettre à Dieu dans sa prière, et Dieu va l'aider. Quels que soient les confinements, quelles que soient les situations que nous pouvons vivre les uns les autres, Dieu, quand il est là, il peut nous aider, nous sortir d'affaires. Amen. En tout cas, c'est ce que lui va expérimenter. Et il est important, dans la période de confinement, si on devait vivre un confinement, eh bien que nous ne mettions pas Dieu hors de l'équation, mais qu'il soit toujours vraiment le premier de notre vie, qu'il soit toujours le centre de notre vie, et il nous aidera, quels que soient les temps et les circonstances que nous pouvons les uns et les autres traverser. Et Dieu sait que parfois, des moments difficiles, je ne sais pas comment vous vivez, vous avez vécu les confinements, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais avec le Seigneur, eh bien, on peut avoir la grâce de résister à tout ce qu'on vit aujourd'hui et de traverser victorieusement. Amen. Il a prié son Dieu. Et nous aussi, on a notre Dieu et ça fait la différence. On va prier le Seigneur, on va demander à Dieu de bénir cette matinée si vous le voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est esprit et vie. Elle est la vérité, Seigneur, et nous en avons besoin. Merci de nous la révéler encore ce matin. Tu nous l'as donné, Seigneur, et c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Seigneur, et on a besoin d'elle, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin que ta parole nous dirige, on a besoin qu'elle nous conduise jour après jour, Seigneur, et que tu puisses encore dans ces instants, eh bien, nous nourrir aussi, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de ta bouche, et nous te disons merci, notre Dieu, notre Père. Amen. Amen. On va lire, si vous voulez bien, un passage dans le livre de l'Exode. Exode au chapitre 23. Exode chapitre 23. Vous savez, la Bible, c'est un livre passionnant. Pour ceux qui la connaissent, je vous encourage à continuer à la creuser, à l'étudier, à la lire, bien entendu, à la méditer également. C'est un livre intéressant, mais passionnant, parce qu'il nous parle de Dieu, bien sûr, mais il nous parle directement. La Bible, c'est Dieu qui parle aux hommes. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut nous parler également. Alors, il est dit dans Exode, chapitre 23 et au verset 1er, « Tu ne répandras point de faux bruit, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. » Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Et si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique Et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Amen. Rapidement, ce peuple hébreu est sorti de l'Égypte, où il fut esclave pendant 400 ans. Et il est sorti à main forte, nous dit la parole de Dieu, et à bras étendus sous le leadership de Moïse. Et ce peuple est entré dans un désert, dans le désert, pour rejoindre la Canaan, qui était sa destination promise, un pays où coule le lait et le miel. Il y a là un symbole, le symbole de ce que le Seigneur veut faire dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. Lorsque le Seigneur est venu nous rencontrer, comme ce fut le cas pour Aline et pour plusieurs d'entre nous, ceux également qui nous suivent sur le net, pour plusieurs d'entre nous, nous étions esclaves, nous étions dans l'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, le Seigneur va le sortir de l'Égypte, de cette maison de servitude, de cet esclavage, pour... comme objectif, le faire entrer dans une vie meilleure. Parce que, en réalité, nous n'avons pas été créés pour être des esclaves, nous n'avons pas été créés pour être même malheureux. À l'origine, les êtres humains, la création divine, même la création elle-même, l'Écriture dit que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu et elle souffre les douleurs de l'enfantement. La création est, je dirais, est malade. La Bible dit quand la terre est bouleversée. Aujourd'hui, on vit toutes sortes de bouleversements sociologiques, météorologiques, enfin sanitaires, etc. On voit bien que la terre est bouleversée. Mais au commencement, la volonté parfaite du Créateur était de nous donner finalement de jouir d'une communion avec lui parfaite et de vivre une vie heureuse, paisible, détendue sur la terre. Mais voilà, le péché, la désobéissance à Dieu a tout gâté. Le péché dans l'Écriture est comme une lèpre, comme quelque chose qui donne la mort, qui entraîne la mort. Et la mort est venue dans le monde et finalement, on est tous et toutes sous la servitude, l'emprise du péché. Vous allez me dire, ah bon, pasteur, oui, on l'est tous et toutes. L'Écriture dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et même quand on est sorti de l'Égypte, comme les Hébreux sont sortis de l'Égypte, n'empêche que la réalité est que dans ce désert, ils vont avoir la révélation d'une chose, c'est la révélation d'eux-mêmes. Ils vont réaliser que eux étaient aussi un problème. C'est-à-dire que ils étaient sortis géographiquement de l'Égypte, mais il y avait quelque chose en eux qui les poussait malgré eux, eh bien, à désobéir en permanence à Dieu. Et ça, c'est pour cela aussi, entre autres, que Dieu a donné Moïse, la loi, etc. Donc, c'est une dispensation, la loi, qui était pédagogique pour nous conduire ensuite à la grâce. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Et ici, nous avons lu la loi est bonne et nous avons lu ici une loi morale ou des lois morales. Et ce que l'on peut retirer ici, c'est un point déjà, c'est que Dieu va organiser la vie. De la même manière, aujourd'hui, à partir du moment où on a donné notre vie au Seigneur, la vie ne s'arrête pas. C'est pas un accomplissement, une fin en soi, même quand on se fait baptiser. C'est un point de départ et il faut aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Le Seigneur a prévu pour chacun et chacune d'entre nous, frères et sœurs, une vie de victoire. Vous le croyez ? L'apôtre Paul disait « combat, le bon combat de la foi ». Et Paul dira à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, et désormais la couronne m'est réservée, de justice m'est réservée. Paul a vécu jusqu'à la fin, malgré les coups, malgré les difficultés, malgré les combats de la vie, Satan, la chair, que sais-je, les problèmes, les assièges, les soucis qu'il a assiégés, etc. Et entre parenthèses, on peut être assiégé comme une ville est assiégée, sans être pris et pénétré par les soucis. Il faut chasser les soucis au nom de Jésus, s'en décharger sur le Seigneur, car lui-même prend soin de nous. Amen. Et donc Dieu veut qu'on soit victorieux, mais pour arriver et vivre dans la victoire, eh bien je crois qu'il y a quelque chose ici que je voudrais faire ressortir avec vous, c'est un point. Simplement, c'est que Dieu aime la vérité. Dieu aime la vérité. Dis à ton voisin, Dieu aime la vérité. Allez, vas-y, dis-lui. Dieu aime la vérité. En fait, Jésus est la vérité. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Et tout du long, Dieu dit, j'apprécie la vérité. J'apprécie la justice. Lorsqu'il y aura des procès, lorsqu'il y aura des contentieux, j'aime les choses vraies. J'aime pas les choses de poids, de mesure. Ça ne me plaît pas, dit le Seigneur. Et la vérité est importante parce que c'est d'abord la vérité une personne. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité est importante également parce que la vérité nous rend libres. Si je n'aime pas la vérité, si j'aime qu'on me flatte, que mon ego soit flatté, si je n'aime pas être repris, même lorsque cela est nécessaire, je vais avoir un problème avec Dieu. Parce que Dieu est vérité et sa parole est un miroir. Alors je peux, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Je peux casser le miroir le jour où je me vois dans le miroir et je vois ce que je vois me fait peur. Je peux le casser et ne pas changer. Mais je peux, parce que la parole est un miroir et parfois les autres sont un miroir aussi, je peux m'en défaire, mais n'empêche que Dieu aime la vérité. Et que la vérité finit toujours par nous rattraper si on l'aime. Vous savez, la Bible dit que parle de ceux qui ont l'amour de la vérité. Pour être sauvés, il neige. Il y a ceux qui ont... Vous savez, moi, quand il neige... Bon, pardonnez-moi le live, bon, mais c'est pas grave. Quand il neige, même si c'est qu'en matinée, je suis chez moi, je prie, il neige, j'arrête tout, puis je me mets devant la neige. Et puis je suis là, il neige, avec mon chat. Et j'aime la vérité. En tout cas, ma chair n'aime pas la vérité, mais mon cœur aime la vérité. Et je disais donc, la vérité, il faut l'accepter lorsque celle-ci vient à nous. Un jour, la parole de Dieu nous parle de David, ce roi selon le cœur de Dieu, ce roi duquel il est dit qu'il a accompli toutes les volontés du Seigneur, parce qu'il n'y en a pas qu'une. C'est bien de commencer, mais c'est bien de bien finir aussi. C'est bien d'accomplir la volonté de Dieu jusqu'à la fin. Amen. Vous savez par exemple que la volonté de Dieu, c'est de pardonner son prochain comme Christ nous a pardonné jusqu'au bout. Il faut pardonner jusqu'au bout. Il faut pardonner. Et ça, c'est la vérité. Et la Bible dit qu'un jour, David, ce roi, qui était un roi illustre, sans doute le roi le plus inspirant, pas forcément le plus sage. Ce fut Salomon, son fils, qui a reçu une sagesse divine extraordinaire. On venait de partout écouter ses prédications. Il avait une culture générale extraordinaire. David n'était peut-être pas un savant. Il n'était peut-être pas un homme aussi éduqué, raffiné que Salomon, voire beau que Salomon. Mais David avait quelque chose que lui n'avait pas. C'était pas de la théorie, David, c'était un cœur qu'il avait pour le Seigneur. Il aimait le Seigneur. Et c'était pas un homme parfait, David, on est bien d'accord, mais c'était un homme qui vivait au diapason du cœur de Dieu. Et c'était important. Mais un jour, David a dérapé. Comme ça peut vous arriver à vous et à moi, nous pouvons tous et toutes, un jour ou l'autre, déraper. On peut tous et toutes avoir des hauts et des bas. On peut être là aujourd'hui, Élie était un homme de la même nature que nous, et puis Jézabel est passé par là, il s'est retrouvé en dessous de tout. Parce qu'il était un homme fragile comme nous. C'est pour ça qu'il est dit qu'il faut qu'on soit puissamment fortifié dans notre homme intérieur. Nous avons un homme intérieur et il faut le fortifier. Un jour, David a arrêté de s'exercer à la piété. Et au lieu d'être sur le champ de bataille, il était là sur la terrasse de son palais, c'est des toits plats, en Israël. Un jour, Israël, on reviendra si Dieu le veut, avec le beau temps d'ailleurs. Et il se promenait le soir et là il a vu une femme qui était très très jolie, mais une femme qui était prise, une femme qui n'était pas la sienne. Et on connaît l'histoire, pour ceux qui sont des lecteurs assidus de la parole de Dieu, comme pour ceux qui sont des assistants assidus au temple. Amen, puisque la Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Amen. Ouh là là, vous êtes frigorifiés, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à ouvrir la portière de ma voiture ce matin. Donc peut-être qu'on peut avoir du mal aussi à ouvrir la porte des cœurs. Mais ça, c'est Dieu qui le fait. Amen. Et cet homme, un jour, eh bien, a couché avec cette femme qui n'était pas la sienne. On l'a informé au préalable que c'était la femme d'Uri. Mais il était roi et comme tout roi, il avait des droits. Et il s'est servi, et il a couché avec une femme, il a commis un adultère. Et mes amis, en 2021, il y a les instructions de Moïse, mais les instructions de Jésus sont encore d'actualité. Jésus a dit, écoutez bien, il va plus loin que la loi, il touche aux intentions de nos cœurs. Quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis un adultère avec elle. Amen, bonne semaine, on revient. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? J'ai pas touché, j'ai pas fait. Mais voyez, Jésus disait concernant les religieux, vous êtes des sépulcres blanchis. C'est beau à l'extérieur, mais l'intérieur est malsain. Ça sent la mort, ça sent le péché. Parce que la loi ne nous change pas. Ce qui nous change, c'est la grâce qui vient de Jésus-Christ. Amen. Et David, un jour, alors que ça a dû, sans doute, c'est ce que disent les commentateurs, ça a dû sans doute durer pendant à peu près une année. Une année que David a caché sa transgression. Pendant une année, David n'a pas vécu dans la vérité. Et vous savez, aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qui est vrai d'ailleurs. Les informations... On ne sait plus si c'est vrai, si c'est... On ne sait plus, on est vraiment dans un monde de confusion. Et je me demande même si ceux qui nous dirigent savent ce qui est vrai. Mais voyez, c'est le principe d'un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Ils finissent tous par tomber dans un trou. Alors si le Seigneur vous donne une révélation, je suis preneur. Mais enfin, attention quand même, j'aime aussi les vraies prophéties. La Bible dit qu'il faut examiner toute chose et il ne faut pas confondre nos pensées avec la pensée de Dieu parce que c'est grave ça dans l'Écriture, dans la parole de Dieu. David donc, je reviens, je n'ai pas perdu le fil, David va pendant une année environ vivre dans l'hypocrisie, vivre dans le mensonge, il va mentir à son entourage. Il va se mentir à lui-même, il va essayer, il va tâcher de s'acheter peut-être une bonne conscience. Mais certains psaumes nous révèlent qu'à l'intérieur, David vivait un profond mal-être. Et vous voyez, parfois, il y a des mal-être qu'on cherche à soigner à coups de tranquillisants, à coups de témesta, à coups de je ne sais quoi, parce que ça turbine là-dedans. Et le problème, c'est pas le problème, parfois, il vient de quoi ? Eh bien, il vient de ce que dit la parole de Dieu. Le problème, il vient du fait que notre cœur est pécheur, qu'il y a dans notre vie des choses qui doivent être mises en lumière. Non pas, on n'est pas Moïse, c'est la loi, mais la grâce de Jésus, c'est pas pour condamner. La grâce du Seigneur Jésus, elle est toujours là pour nous relever. Et n'ayons pas peur de nous exposer à la lumière de la grâce de Dieu. Amen. Et David, alors, va être confronté à un moment donné par un prophète, par un homme qui est un porte-parole de Dieu. Dieu va lui parler. Vous savez, Dieu parle aux prophètes, Dieu parle aux serviteurs de Dieu. Et c'est pas toujours utile d'avoir des entretiens, on sait parfois ce qu'il y a parce que le Saint-Esprit donne des révélations. C'était vrai dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi vrai dans le Nouveau Testament. La parole nous dit qu'il va aller le confronter délicatement avec un yaourt, parce qu'il avait une pilule difficile à lui faire intégrer, pour le guérir, une petite parabole. Ça passe toujours bien, une petite histoire. Vous voyez, on fait comme ça avec les enfants. Et David va comprendre, sans se l'approprier. Mais le prophète va lui dire, tu vois, le riche qui a pris la brebis du pauvre, c'est toi. Et David était en colère puisqu'il dira, mais celui qui a fait ça, après que celui-ci ait raconté l'anecdote, il va dire, celui qui a fait ça, il doit rendre le quadruple, il doit payer 4 fois plus. Un peu comme Zachée, quand Jésus est venu dans sa maison, il a dit, si j'ai fait tort de quelque chose, je lui rends le quadruple, le quadruple. Parce que quand la vérité vient chez nous, on a envie de réparer. Alors, parfois on peut, parfois on ne peut pas, mais c'est cela le fruit digne de la repentance. C'est vivre dans la vérité de Dieu. Alors, des fois, on est très contradictoire. On veut être libre, on veut être heureux, mais on ne veut pas la vérité. Pourtant, Jésus disait, c'est la vérité qui vous rendra libre. C'est la vérité qui vous affranchira. Et celui que le Fils affranchit est réellement libre. Et je dis Amen, pasteur Yvan. Et là, la parole de Dieu nous dit que David, eh bien, va s'effondrer. Il va se repentir de sa faute. Il va se repentir de son péché. Et il va demander pardon au Seigneur d'avoir vécu pendant tout ce temps dans le péché. Amen. Alors le temps a passé, j'ai 2 autres points, mais je ne crois pas que je puisse continuer. Je pense qu'il faut sans doute que je m'arrête. Est-ce que c'est possible de faire la vidéo au deuxième culte, exceptionnellement, de mettre en clic? Voilà, on continuera tout à l'heure, mais je crois que je vais rester sur ce point, frères et sœurs, parce que après, je vais parler d'un deuxième point, puis j'ai même un troisième point. Donc, je ne veux pas trop en donner. Donc, ça ne veut pas dire que je ne veux pas tout donner. Je vais tout donner, mais je vais le faire au fur et à mesure. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Même si vous n'êtes pas d'accord, je vais faire comme ça. J'organise ma journée, n'est-ce pas? Donc, je termine sur cette pensée de la vérité. La vérité nous rend libres. Et à partir du moment où David a reconnu la vérité sur sa condition personnelle, David a pu repartir à zéro. David a pu recommencer. David a pu rebondir. Et mes amis, dans cette vie, il est important de vivre si on veut vivre. Je vais terminer par cette pensée. Des choses avec Dieu, authentiques, même spirituellement, dans les choses de l'esprit, il est important que la vérité de la parole de Dieu, ta parole et la vérité, est raison de notre cœur et raison de notre vie. Et je dis Amen à cette vérité, que la vérité puisse pénétrer notre cœur. David disait, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu le veux. Et quand Satan viendra, parce que Satan vient, quand les démons viendront, quand le combat spirituel viendra, ce n'est pas que du spectaculaire. Si je suis saint de la vérité, si j'ai la vérité pour ceinture, si je vis dans la vérité, si je marche dans la vérité, eh bien Satan, j'aurai là une vraie autorité spirituelle. Et je n'aurai pas besoin de, pardonnez-moi l'expression, de vociférer. Je n'aurai pas besoin même de crier. Parce que ce n'est pas là l'autorité spirituelle. L'autorité, c'est une façon de vivre avec Dieu au quotidien, dans la parole de Dieu, se tenir dans la parole de Dieu, s'éloigner du mal, s'éloigner du mensonge et se tenir dans la vérité de la parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Je vais terminer par la prière. On pourrait se mettre debout quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que elle est esprit et vie. Merci parce que tu agis, Seigneur, au milieu de nous. Tu agis ce matin. Tu vois les besoins, Seigneur, des uns et des autres. Tu vois, nous sommes là et tu vois combien parfois l'adversaire réussit à tromper les bien-aimés. On peut vivre dans l'illusion d'une vie spirituelle, on peut vivre dans de la religion sans vivre une vraie relation avec toi basée sur des expériences véridiques. Seigneur, je te prie ce matin que la vérité de Dieu triomphe au milieu de nous, que la vérité de la parole de Dieu se manifeste au milieu de nous, qu'elle soit toujours à l'honneur dans notre cœur et dans notre vie. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce, que ton saint nom soit pleinement glorifié, Jésus. Nous te disons à toi la gloire, la louange et l'honneur, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Et on peut acclamer Jésus, notre roi. J'aurais bien parlé quelques instants, parce que dans ce même chapitre, c'est l'organisation de la vie. C'est Moïse qui va parler des fêtes de l'Éternel. Et il va parler de plusieurs fêtes. Il va parler de la Pâque, il va parler de la Pentecôte, et il va parler de la fête des tabernacles. Et ça, je le réserve pour après. Parce que, en fait, je ne peux pas vivre une vie de victoire dans la vérité sans l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Alors si, par exemple, vous pouvez écouter sur Internet tout ça, la suite, c'est important, c'est une suite. C'est important si on veut une vie chrétienne victorieuse. La vérité nous rend libres, mais il y a l'Esprit de vérité qui veut venir dans ta vie, qui veut venir siéger dans ta vie et dans ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais ça, c'est la continuité du message. Je suis désolé, c'est déjà 10h50. On doit vous laisser aller, il y a la neige et tout. Et on revient après avec d'autres. Soyez bénis.